Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et je suis convaincu que pendant trop longtemps, on s'est trompé sur notre définition du travail. Mais heureusement, il existe aujourd'hui toute une catégorie de personnes qui, progressivement, transforme notre manière de voir ce qu'est le travail en commençant par le regard qu'ils y portent eux-mêmes. Ils font de leur activité professionnelle un moyen d'épanouissement, un outil pour construire le mode de vie dont ils rêvent. Et vous l'avez deviné, je parle bien évidemment des freelances. Et comme chaque semaine, j'accueille aujourd'hui sur le podcast un indépendant, comme toi, pour échanger sur les grands sujets de notre activité et de notre mode de vie. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir mon cher ami Romain Limois sur le podcast derrière le micro. Romain est consultant en personal branding, un métier qu'il s'est créé de toutes pièces, au travers duquel il accompagne des conférenciers, auteurs, consultants et globalement des entrepreneurs indépendants qui sont seuls dans leur activité, comme toi j'imagine, et il les accompagne à passer d'un statut d'anonyme à une autorité sur leur thématique grâce au pouvoir du personal branding ou de la marque personnelle, si tu préfères ce terme-là. Pendant notre échange ensemble, on s'est donc attaqué à cette belle promesse de transformation qu'il porte en décortiquant point par point sa méthodologie pour que toi aussi tu puisses commencer à te poser de nouvelles questions à ce sujet et passer à l'action dès la fin de l'épisode. Mais juste avant de rentrer dans le cœur de cette discussion, un petit disclaimer. Quand nous avons enregistré cet épisode ensemble avec Romain il y a quelques semaines, il était en plein cœur d'un défi qu'il s'était lancé, que de publier 1 vidéo par jour sur YouTube pendant 100 jours. Défi qu'il a depuis réussi, pour lequel je le félicite d'ailleurs, parce que c'est une belle réalisation. Mais du coup, au moment où ce podcast sort, Il a terminé ce défi et réfléchi au prochain pas pour sa création de contenu. Et du coup, quand il dit dans l'échange, dans le podcast, qu'il poste une vidéo par jour sur YouTube, c'est plus d'actualité en ce moment. Et j'ai un regard d'insider d'ailleurs, donc je sais ce qui va sortir bientôt. Et je peux vous assurer que ça va être grandiose. Mais bon, j'arrête de vous teaser et je vous laisse découvrir l'épisode du jour avec Romain. Bonne écoute. Bonjour Romain Limois.
Bonjour mon cher Thomas.
Bienvenue sur le podcast.
Bah écoute, je dois te dire que ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai vu ce que c'était. Enfin, j'ai vu le début quoi. J'étais présent au tout début quand tu me disais « Ah Romain, je vais faire un podcast ». Et je dois t'avouer que ça me fait vraiment plaisir que tu m'offres un épisode, que tu m'invites, qu'on puisse discuter comme ça pendant quelques minutes.
Écoute, je pense que ça va être un bel épisode.
Bah écoute, je pense aussi, on va pas peut-être teaser les auditeurs comme ça sans savoir, mais...
Rentrons directement dedans, tu as raison, ne teasons pas. Partons directement sur cette première question un peu contextuelle, rituelle d'entrée. Romain Limois, comment... Pourquoi je dis Romain Limois? C'est drôle de dire
Romain. Mais si, c'est bien, très bien.
Romain Limois. Comment tu es devenu freelance? Et pourquoi tu es devenu freelance?
Alors, je dirais plus... Je me considère plus comme un indépendant. Okay. Mais oui, j'imagine que c'est la même question. Est-ce que je te fais la version longue ou la version courte?
Toi qui vois. Comment et pourquoi?
Il n'y a pas d'entre-deux.
Comment et pourquoi?
Alors, comment et pourquoi? En fait, si tu veux, je dirais que j'ai mis 26 ans à comprendre ce que c'était vraiment que l'entrepreneuriat, en fait.
Ok.
J'ai fait une école de commerce.
Ouais.
Et quand t'es en école de commerce, l'entrepreneuriat, moi j'étais en 2012 en école de commerce. En 2012, l'entrepreneuriat, c'était quoi? C'était Facebook. Parce qu'en 2012, Facebook avait racheté Instagram. Donc c'était, voilà. Zuckerberg, c'était l'entrepreneur. Donc en fait, le start-upper, c'était l'entrepreneur.
Ok.
Et pareil, je commençais à consommer pas mal de contenu, tu vois, d'Oussama Hamar. Oussama Hamar, The Family. L'entrepreneuriat égale créer une énorme licorne et puis revendre à des millions, etc.
D'ailleurs, à l'époque, je pense pas que licorne, ça existait comme terme.
Licorne, ça existait même pas, tu vois. Mais par contre, Oussama Hamar, il commençait un peu
C'était genre lever des fonds, faire j'ai pas combien de millions sur un tour de table.
C'est ça. Ou alors, il y avait l'entrepreneuriat un peu à l'ancienne, industriel, où t'avais ta petite usine capitalistique à l'ancienne. Et donc, pour moi, c'était ça l'entrepreneuriat. Et je me suis toujours dit, j'aimerais bien être entrepreneur. Mais pour moi, la seule issue, c'était de devenir soit Mark Zuckerberg, ou en tout cas de marcher sur ses pas, soit d'avoir une boîte à l'ancienne. Et donc, du coup, j'ai rapidement essayé de chercher un peu à bosser. Mes premiers jobs, c'était un peu d'un... J'ai essayé de trouver cet état d'esprit entrepreneurial parce que j'osais pas, mais en fait, me lancer. Je savais pas vraiment comment me lancer. Je cherchais l'idée. Enfin, c'était un peu galère. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé chez Tesla.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui te mène chez Tesla.
C'est ça qui m'amène chez Tesla, parce que je me renseigne sur les plus grands entrepreneurs de notre époque, Elon Musk, et je me dis, ça serait quand même pas mal bosser chez Tesla.
C'est assez dingue quand même d'avoir bossé chez Tesla, il faut se le dire.
Ouais, mais c'est,
on l'oublie, et d'ailleurs, les gens qui te suivent sur YouTube, j'imagine qu'ils n'en ont aucune idée.
Ils le savent pas, enfin, je pense qu'ils le savent pas. En fait, vraiment, pour te faire la petite parenthèse sur Tesla, je me retrouve dans une boîte qui s'appelle Sigfox, qui est une grosse PME toulousaine. Moi, je suis toulousain. Je me retrouve en stage de fin d'études chez Sigfox, en commercial sédentaire, en inside sales. Mmh. Et donc, je fais mon stage de fin d'études. Et là, ils me proposent pas de CDI. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas qu'ils me proposent pas de CDI. Ils me disent, t'inquiète, tu vas rester en CDI. Mais je vois pas la promesse d'embauche, quoi. Je me dis, je vais quand même chercher un job à côté, on sait jamais. Et là, intéressé par Elon Musk, je cherche un job chez Tesla et je tombe exactement sur mon job, inside sales,
mais chez Tesla.
French speaking. Genre, vraiment le truc, genre, je me suis dit, c'est exactement moi. Je postule, je passe 5 entretiens, ils me disent, ok, tu débarques dans un mois. Je fais ma valise, je m'en vais et je pars chez Tesla à Amsterdam, au siège européen,
c'est où
j'étais en support des équipes de vente.
C'est drôle parce que même moi, j'ai jamais entendu cette histoire.
Sérieux? voilà, un petit peu de nouveauté, je te surprends un petit peu, Thomas. Mais voilà, et je me retrouve à Amsterdam en Inside 16, équipe internationale. Moi, j'étais chez les Frenchies, on était 3 Français, et puis il y avait plein d'équipes. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que je te la fais courte, je reviens sur le sujet.
Mais t'en fais pas.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma copine, en fait, à l'époque, avait trouvé un job à Paris. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de rentrer, et puis d'habiter avec elle. Et donc, je vais voir ma boss à Amsterdam et elle me dit, écoute, si tu veux, on a peut-être une place pour toi, mais chez Tesla, en France.
Okay.
Donc je me dis, mais génial, je reste chez Tesla et j'arrive dans la succursale, la toute petite succursale française. Donc elle me dit, moi je te soutiens et je vais essayer de te promouvoir en interne et tu vas partir. Et en fait, c'est ce qui se passe. Bon, évidemment, les Français négocient une baisse de salaire. Enfin, voilà. On revient sur le marché du travail français, évidemment. Mais voilà, je débarque en France dans la petite succursale dans le 78 chez Tesla. Et là, j'arrive dans une succursale et en fait, tout le rêve Elon Musk, innovation, tout ça, s'effondre totalement parce que j'arrive dans une succursale qui est en fait une succursale de voitures de luxe. J'aurais pu travailler chez Porsche ou chez BMW. C'était exactement la même chose. Il n'y avait pas ce côté innovation. On croisait pas des mecs qui venaient de Los Angeles, de San Jose, etc. Et on se retrouve avec un manager à l'ancienne, etc. Et c'était pas très inspirant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je débarque en avril 2016. Et, parallèlement, je découvre un créateur de contenu dont on a parlé assez longuement, qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, c'est un Américain et je le découvre vraiment peut-être en mai ou juin 2016 et je lis son bouquin. Donc, je télécharge sur Kindle son bouquin et je lis son bouquin qui est Ask Gary Vee.
Ouais, okay.
Ask Gary Vee, c'est un peu comme ton concept de freelance online.
Ouais.
Et là, dans ce bouquin, je lis une phrase qui dit t'es 100% en contrôle de ta vie, t'es 100% responsable de ta vie. Si tu n'aimes pas ton job, quitte-le. Et là, je suis dans le bus, parce que j'habite en plein intramuros, et je suis dans le bus
pour aller dans
le 78, tous les matins, je me levais à pas d'heure et tout pour aller dans le 78. Là, je suis dans le bus et je lis ce livre-là, et je me dis, mais en fait, je pourrais quitter Tesla. Ce qui est bizarre pour tout le monde. Tout le monde me dit, mais mec, t'es chez Tesla.
Ouais, grave.
C'est la boîte de la décennie. Là. Et donc, je me retrouve en fait à poser ma dème. En fait, je pose ma dème et je me dis de toute façon, je vais pas vendre des voitures de luxe comme ça dans des showrooms. Ouais. J'attendais toute la journée dans un showroom pour essayer de vendre une voiture à 160 000 euros et c'était pas mon truc. Et je me retrouve par hasard à travailler en fait dans une entreprise qui venait à peine de naître, qui s'appelle toujours Crème de la Crème. Ouais. Crème de la Crème, qui est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Et là, je rencontre Théo, le fondateur, qui me dit j'ai besoin d'un vendeur. J'ai besoin d'un sales, j'ai déjà recruté quelqu'un, vous allez former la première équipe sales, on va développer toute la partie client, et on est 5 dans la boîte. Quoi. Et du coup, bah, je me retrouve un peu, j'ai rebondi en fait, un peu par hasard, un peu par opportunisme.
Et se reconnecter à cet esprit entrepreneurial du coup que tu avais peut-être au début et que tu recherchais.
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que là, je me suis dit, je suis pas encore prêt pour monter une entreprise, pour monter le prochain Facebook, quoi, grosso modo, pour aller à Station F ou je sais pas quoi. Je suis prêt pour aller travailler dans une petite start-up. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a rapproché, en fait, de l'entrepreneuriat que je pensais être l'entrepreneuriat que je voulais. C'est-à-dire l'entrepreneuriat start-up.
Monter une boîte.
Et là, je me retrouve dans un monde. Je découvre un monde, en fait. Je découvre le monde des indépendants, des freelances. Et tous les jours, je passe mon temps au téléphone avec des clients, mais aussi avec des freelances.
Ouais.
Et je me dis, attends, mais le lifestyle est exactement un lifestyle que j'ai toujours rêver d'avoir, c'est-à-dire avoir le contrôle de son temps avec ses avantages et ses inconvénients. Mais...
Bien sûr.
Et là, en fait, voilà. Et pendant 26 ans, là, j'avais 26 ans à ce moment-là et je me dis, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que monter sa start-up.
Ouais.
L'entrepreneuriat, c'est aussi être indépendant, c'est aussi être freelance, c'est monter, c'est créer son métier, c'est tout ça. Et donc, je découvre, en fait, ce que c'est réellement que l'entrepreneuriat et quelle est, en fait, la diversité
des formes
d'entrepreneuriat. Ouais, voilà.
Parce qu'au final, j'aime bien la phrase que tu dis créer son métier, parce que pour moi, c'est vraiment ça, entreprendre, c'est-à-dire se lancer dans le monde du travail et se dire, il n'existe pas une place qu'on va m'offrir, je dois la créer de toute pièce, même si ça n'existe pas encore.
C'est ça.
Et je trouve que c'est un combat que beaucoup de freelances font, ou qu'ils devraient faire, parce que trop souvent, je trouve, les freelances et les indépendants, ils se lancent et ils calquent ce que quelqu'un d'autre fait, parce qu'ils se disent, s'il le fait, ça doit marcher, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui fait qu'on réinvente jamais les métiers, et on tire les choses vers le bas, etc. Et je pense que la réflexion qu'on devrait tous avoir, qui correspond à cette phrase, c'est de se dire, si je devais faire tout qui me ressemble à 100% et créer mon métier de toute pièce, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, à quoi ça ressemble?
Et c'est souvent, on va vite se rendre compte en se posant cette question, que souvent, c'est un statut plutôt d'indépendant, ouais, ou
parce que c'est super malléable en fait.
Parce que c'est malléable, parce que tu n'as pas à rendre de compte à part à tes clients finalement.
Et par les résultats, parce
et
que tu
par les résultats, bien sûr.
Et du coup, ça c'est comment t'y arriver aujourd'hui. T'as un peu parlé du pourquoi aussi, qui était gérer ton temps comme tu le voulais, etc. Et une question que je rajoute en ce moment à la fin de cette question, c'est aujourd'hui dans ton activité d'indépendant, qu'est-ce qui fait que t'y restes et qu'est-ce qui fait que tu sais que c'est le mode de vie que tu veux? Genre, pourquoi tu t'es lancé, on l'a vu, pourquoi tu restes maintenant?
Pourquoi je reste et pourquoi je reviens pas dans le salariat, par exemple,
après avoir découvert ce que c'est l'indépendance?
La réponse est un peu bateau, parce que je pense que beaucoup de gens te font cette réponse-là, mais il y a cette envie de liberté. Une fois que t'as goûté à ça, c'est très compliqué, en fait, de revenir derrière.
C'est ma réponse aussi.
Voilà, une fois que t'as goûté à cette liberté, moi, en fait, ce qui m'a toujours un peu embêté, c'est de devoir rendre des comptes. Parce qu'en fait, je suis pas très efficace quand je dois rendre des comptes. J'ai des deadlines et que je dois, par exemple, répondre à un supérieur ou quelque chose comme ça, je suis beaucoup moins efficace quand moi-même je m'organise, etc. Et donc, en fait, je me dis, évidemment, il y a cette recherche de liberté, mais il y a aussi le fait que quand tu crées de la valeur, tu captes une grande partie de cette valeur.
Quand t'es
indépendant. Alors que quand t'es salarié, tu crées énormément de valeur.
Mais t'en captes.
Et t'en captes, voilà. Il y a ça. Et le troisième point, je dirais, qu'il y a un côté infini. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, en fait. C'est-à-dire que... Le plafond, c'est toi, et c'est tes propres limitations, c'est tes propres croyances. Donc, en fait, quand tu disais, un jour, tu m'as dit, l'entrepreneuriat, et surtout le fait d'être indépendant, c'est le meilleur développement personnel. Et bien sûr, ma vie, elle a changé à partir du moment où je me suis retrouvé seul, parce que t'as pas de garde-fou, mais par contre, t'as un boulevard devant toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, toi, par exemple, qui commence à faire des conférences, etc., rien ne te dit que, enfin, peut-être que tu vas être devant 3000 personnes dans 5 ans.
On sait pas.
Ou peut-être avant. On sait pas. En tout cas, personne va t'empêcher. T'auras pas de limitation. Le fait que ça soit infini, je trouve que c'est assez enivrant. On se dit que tout est possible, en fait.
C'est clair.
Et ça, si je reste, c'est surtout pour ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux vraiment.
J'aime bien me rappeler, effectivement, que tous les jours, quand on est indépendant, on se lève et on a une page blanche devant soi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, si on avait vraiment envie, on pourrait balayer tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et recommencer sur une nouvelle page. Mais c'est nous qui sommes aux commandes de notre bateau pour créer ce qu'on veut créer tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça recommence. Effectivement, comme tu dis, c'est enivrant. Moi, j'y suis... aujourd'hui, c'est le jeu que j'adore le plus. C'est presque addictif de se dire, en fait, là, j'ai 100% de contrôle sur à quoi j'ai envie que ma vie ressemble. Et je trouve ça super... Enfin, c'est incroyable de pouvoir vivre ça, et effectivement, c'est la raison pour laquelle je reste aussi.
Impossible de revenir.
C'est clair. Pour avancer, tu disais créer son métier de toute pièce. Aujourd'hui, c'est un peu ce que t'as fait, du coup.
Complètement.
Et en sélectionnant un sujet qui te passionne, qui est le sujet du personal branding. Pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas exactement ce que c'est, j'aimerais que tu nous partages. Pour toi, c'est quoi le personal branding, et surtout, pourquoi c'est important?
En fait, le personal branding, la définition qu'on va trouver facilement, si on fait un peu de recherche, on va trouver une définition qui est ta marque personnelle, c'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas
dans la pièce.
C'est la définition de
Jeff Bezos.
C'est Jeff Bezos qui dit ça pour la marque, le branding de sa boîte, et c'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas dans la pièce, et c'est ce qu'on dit de toi quand t'as le dos tourné. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que le personal branding, c'est une question de perception. C'est une question de valeur perçue. Comment on perçoit ton travail, comment on perçoit ta personnalité, et la perception en fait, c'est pas qu'une question d'image de soi, parce que souvent quand on fait quelques recherches ou quand on va à la Fnac au rayon personal branding ou au rayon qu'on trouve quand on va à la Fnac et qu'on trouve
un jour
mais quand on va à la Fnac et qu'on trouve des livres francophones sur ce sujet, rapidement on comprend que c'est une question d'image, une question limite de relooking, ou d'introspection profonde, etc. Alors qu'en fait, quand on se dit que le personal branding est lié à la valeur perçue, la valeur, elle est toujours dans l'œil de ton audience. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu sais ça, tu te dis qu'en fait, le personal branding, c'est lié au message que tu transmets et comment tu communiques.
Ouais.
Et surtout, c'est lié au gap, au fossé qu'il y a entre ce que tu veux communiquer Est-ce que tu communiques vraiment?
Est-ce que les gens pensent vraiment?
Est-ce que les gens pensent vraiment? Et l'idée, c'est de réduire au maximum et de faire disparaître, en fait, ce gap-là.
Ouais. Avec voilà. plein de techniques et plein de...
Avec plein de techniques, avec, voilà. Et on va en parler, là, je pense que tu as posé
pas mal de questions. Et du coup, pourquoi c'est important pour un freelance d'avoir cette réflexion sur le personal branding ou la marque personnelle, si on francise le terme?
En fait, pourquoi ça me passionne? Pourquoi ça me fascine le personal branding? Parce que déjà, c'est sous-estimé. Très sous-estimé. C'est sous-estimé en francophonie. Parce que c'est une question culturelle. C'est-à-dire que culturellement, on n'aime pas se mettre en avant. Rapidement, quelqu'un qui se met en avant, on va dire que c'est quelqu'un d'arrogant.
Ouais.
Ou quelqu'un de m'as-tu vu.
Ouais.
Ou quelqu'un qui fait de l'autopromotion. Et donc, en fait, le français ou le francophone, on va dire, même l'européen au sens large, n'aime pas trop se mettre en avant. Les anglo-saxons ont pas de problème là-dessus. Et du coup, c'est tellement sous-estimé que, bah, c'est un avantage énorme à partir du moment où
tu commences à travailler dessus.
On commence à travailler dessus. Il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a une marque personnelle. Et en fait, ce que je dis, c'est que souvent, la seule chose qu'il faut se mettre bien en tête, c'est que soit tu décides de développer ta marque personnelle
et de travailler dessus,
soit tu la laisses vivre un peu par défaut. Et dans ce cas-là, si tu racontes pas ton histoire, si tu racontes pas ce que tu veux raconter, quelqu'un d'autre le fait pour toi.
Ouais, parce qu'en fait, c'est basé sur le fait que quoi qu'il arrive, les gens ont un avis sur toi. Quoi qu'il arrive, les gens ont un avis sur ton travail et ils vont en parler à d'autres personnes et ils vont te recommander ou non, ils vont dire des choses. Et effectivement, tant que tu prends pas le contrôle sur qu'est-ce que je peux faire qui influence ce que les gens vont dire de moi, tu laisses ça à la sauvagerie du monde et tu contrôles rien, en fait.
Ouais, t'es pas en contrôle.
Et moi, ce que j'aime bien, ma vision du personal branding, c'est qu'en fait, effectivement, c'est un sujet qui est incroyablement sous-estimé, alors que sa grande sœur, entre guillemets, qui est le branding, qui est mon métier, de la stratégie de marque, et en gros, comment est-ce que tu influences les perceptions que les gens ont d'une marque, genre Nike, Apple, Blue, qui est la marque de ce micro. Comment tu influences la pensée de que ces gens ont d'une marque? Et ça, c'est une science qui est très poussée. Il y a des énormes agences internationales sur le sujet qui brassent des millions et des millions. Et c'est un gros investissement pour les grandes boîtes, les grandes marques. Et le personal branding, c'est juste se dire comment je prends tout ce savoir-là et je l'applique à moi en tant que personne pour faire de mon prénom-nom une marque du même style qu'un Apple, qu'un Nike, etc., avec tout ce qui va autour. Et je trouve ça incroyable à quel point c'est tellement développé sur les grandes marques, mais nous, en tant que personne, on l'a pas encore pris à ce point, tu vois.
On n'ose pas se mettre en avant.
Ouais.
Parce que déjà, se mettre en avant, c'est être vulnérable.
Ouais, c'est clair, ça fait peur.
Ça fait peur. T'es dans l'arène. Ouais. Les gens te regardent. Et donc, du coup, t'es vulnérable. Ouais. Par définition. Donc, on préfère être caché tranquillement. Être un consommateur, pas forcément être un producteur. Et après, culturellement, hein, quand tu vois les Américains qui font des show and tell,
ouais.
Donc tous les petits Américains qui
ramènent leurs parents,
tous les lundis, ils ramènent leurs parents, ils ramènent leurs jouets, ils disent ouais. Voilà pourquoi j'aime ce jouet, ils racontent à 8 ans à toute la classe. Forcément, c'est une façon de se mettre en avant, de prendre la parole, etc. Et donc, il y a une certaine crainte de se mettre en avant par peur d'être jugé. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est ok, il y a cette crainte-là. La majorité des freelances et des indépendants
vont rester avec
cette crainte-là. Prenez le contre-pied, voyez le verre à moitié vide. À moitié plein, du coup.
À moitié plein.
Et essayez de prendre le contre-pied.
Ouais.
S'il y a 1% de personnes, 1% d'indépendants qui développent leur marque personnelle, pourquoi ne pas...
Faire partie de ça.
Tu vois, l'expérience vécue, je travaillais chez Crème de la Crème pendant 2 ans et demi. Et chez Crème de la Crème, en fait, on travaillait avec beaucoup de freelances. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la majorité des freelances qui travaillaient avec nous était plutôt en condition un peu précaire, on va dire de survie, quoi. Tu payes ton loyer juste.
Ouais.
Par contre, il y avait peut-être 2% de la base de freelance qui, eux, étaient mais complètement au-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait 98% et 2%. Un gap énorme. Ces 2%-là, ils avaient tous une marque personnelle
soit forte,
soit qui commençait à être forte. T'en faisais partie. C'est là d'ailleurs la première fois qu'on s'est rencontrés et il y avait un certain nombre de freelances qui en faisaient partie. Ils avaient tous une marque personnelle. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui est en train de se passer. Et à ça, bah, je rajoute aussi tout le contenu justement de ce Gary Vaynerchuk là qui a été important du coup dans les dernières années pour moi, qui lui parlait aussi de marque personnelle en disant mais moi c'est c'est ma marque personnelle me ramène 5 millions par mois. Ouais. On ramène à mon agence 5 millions par mois.
Parce que les gens viennent le chercher.
Parce que les gens viennent, voilà, lui parler à lui. Donc, en fait, il y a pas mal d'avantages. Mais surtout, il faut se dire que les gens savent que c'est important, se doutent que c'est important, mais n'y vont pas par peur.
C'est exactement, ça me fait marrer parce que on avait cette conversation la dernière fois sur un bouquin. Et j'en ai un peu parlé dans les épisodes de podcast que j'ai enregistré plus tôt aujourd'hui, où tu disais, ouais, j'ai pas envie d'avoir accès à un savoir généraliste que tout le monde a. Mm. Et ce que j'avais, quand on parlait de ça, ce que j'avais dit, c'est oui, effectivement, tout le monde a lu ce bouquin, mais personne l'a utilisé. Et je trouve que la marque personnelle, c'est pareil, tout le monde en parle, ça intéresse tout le monde, mais personne met 100% d'action sur la table pour développer ça et utiliser le pouvoir que c'est, en fait. Et c'est vraiment intéressant, ce truc de... On sait, oui, c'est intéressant, oui, c'est important, oui, ça peut faire la différence, mais personne n'y va.
C'est ça.
Et du coup, j'ai envie, avant de rentrer dans le concret de comment on y va, justement, parce que c'est un grand sujet, je pense, pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, ouais, ok, comment on y va?
Le teasing est énorme, 20 minutes de teasing.
J'ai quand même envie de finir sur ce truc culturel dont tu parles, parce qu'en France, c'est vraiment présent, et les gens ont presque peur de ça, de se faire juger.
Il y a une vraie peur,
et... Un truc que dit justement Gary Vaynerchuk, et j'adore et je trouve que c'est tellement important à intégrer ça, c'est en fait, au-delà de se dire j'assume et je suis prêt à affronter le regard des autres, je trouve que le vrai travail à faire, c'est faire en sorte que le regard des autres et ce qu'ils peuvent dire de toi et ce qu'ils peuvent utiliser de ce qu'ils savent sur toi, ça n'a aucune influence. Et c'est même plus de ne pas en avoir peur, c'est juste, ça ne me touche pas.
Ouais.
Et ça ne change rien à ma vie. Et ce que dit Gary sur ça aussi, qui est intéressant, c'est le négatif, faut réussir à s'en foutre complètement, mais le positif aussi.
Ouais.
Parce que ce qu'on peut vivre tous les deux, par exemple, avec les contenus concrets, tous les feedbacks qu'on a, les gens qui nous remercient, qui nous applaudissent, qui disent que c'est incroyable ce qu'on fait, patati patata, forcément, quelque part, ça fait du bien, tu vois, ça stimule, ça flatte ton ego. Mais la vraie force, c'est quand même ça ne t'affecte plus et que t'es juste en train d'avancer, de faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire pour ta mission de vie, entre guillemets, et exécuter sans te laisser affecter ni par le positif ni par le négatif.
Ouais, c'est vrai que là, cette citation-là de Gary, Gary Vaynerchuk, incroyable. Moi, c'est vrai que, voilà, détache-toi à la fois du rejet et du négatif que du positif. Mais en même temps, c'est aussi humain, tu vois,
grave.
C'est humain, en fait, d'avoir peur du rejet.
Ouais.
On est fait comme ça. On a peur du jugement des autres, on a peur du rejet, on est des êtres sociaux.
Ouais, c'est clair.
Et donc, en fait, c'est un vrai travail pour la grande majorité des gens.
C'est clair.
De se dire, je m'en fous, j'y vais quand même.
Ouais.
Et ça, c'est un vrai, vrai travail. Et la marque personnelle, en fait, une fois qu'on comprend ça, qu'on se dit, en fait, je m'en fous.
Ouais.
Je vais créer du contenu. Je vais diffuser mon message. Je vais vraiment essayer d'imposer une certaine idéologie avec ma réflexion, mes croyances à moi, mes croyances fortes, et je vais les transmettre et quelqu'un va m'entendre et je vais diffuser, plusieurs personnes vont m'entendre et je vais commencer à avoir une audience autour de moi. Je le fais et je m'en fous de ce qui va se passer.
Je trouve qu'une bonne manière de traiter ce truc, c'est de changer qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'avoir du rejet ou des commentaires de merde sur les réseaux sociaux, par exemple, quand tu commences à créer du contenu, t'as toujours ce genre de commentaires qui arrivent.
T'as des haters.
Et une histoire que je raconte souvent sur le sujet et les gens à chaque fois sont abasourdis, c'est avec Marie, avec qui j'ai créé Surf en Freelance. Quand on a commencé à développer le projet, il y avait un moment où on avait une conférence en ligne qu'on mettait en avant et on a fait des publicités Facebook pour faire venir les gens dans cette conférence en ligne. Et sur le texte d'une des publicités Facebook, on a eu un commentaire de quelqu'un et j'ai le commentaire texto en tête, c'est « Vous n'êtes que des manipulateurs lepénistes. Et c'était notre premier hater, c'était notre premier commentaire négatif. Et en vrai, c'est ultra violent comme commentaire. Ouais. Vous n'êtes que des manipulateurs lepénistes à nous comparer à, enfin, tous ces trucs de haine, etc. Et ce qu'on a fait avec Marie, c'est qu'on savait qu'on allait s'attirer ça. Et du coup, on a fait un truc complètement contre-intuitif. C'est que quand on a vu ce commentaire, on s'est levé, on a commencé à danser et à célébrer le fait d'avoir des haters.
Ouais. T'as célébré ton premier hater.
On a célébré le fait qu'on se prenne du rejet dans la gueule et que les gens nous détestent. Parce que pour nous, c'était signe à la fois qu'on avançait, parce qu'il y avait des gens qui trouvaient notre message assez clivant pour qu'on avance, et du coup c'était bon signe qu'on arrivait à capter l'attention, et on l'a fait exprès pour se dire, si on arrive à absorber et à accepter ce genre de commentaires négatifs, on aura beaucoup plus d'endurance sur le long terme que si ça nous affecte. Et du coup, c'était construit comme ça, de se dire, on va le célébrer pour que, envoyer le message à notre cerveau que c'est une bonne chose, continue.
C'est marrant que tu dis ça, parce que pareil, bon, mon premier hater, qui m'a dit que je le dégoûtais, tu me dégoûtes totalement avec ton contenu et tout. J'ai fait une petite capture d'écran et j'ai gardé aussi, parce que pareil, j'ai un peu célébré, parce que c'est marrant que tu me dis ça, mais pareil, je me suis dit, ah, mon premier hater. Mais ça me fait penser ce que tu dis à une phrase de Robert Greene, qui est la personne qui a écrit le livre Power, les 48 lois du pouvoir. Il dit, en gros, si vous êtes attaqué, c'est que vous êtes une cible suffisamment importante pour être attaqué.
Ah, c'est bien ça.
Et en fait, moi, chaque fois que quelqu'un vient m'insulter, ça arrive assez rarement, je dois l'avouer, mais chaque fois que quelqu'un vient me dire que voilà, ce que je fais, c'est nul, ou que vraiment, quand c'est pas constructif, évidemment, je me dis, bon, mais c'est bien, c'est-à-dire que je fais assez de bruit pour aussi toucher ce genre de mecs-là, qui sont pas dans mon audience, mais qui viennent me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Et voilà, si vous êtes attaqué, c'est que vous êtes une cible suffisamment importante pour être attaqué.
Pas mal. Et du coup, je trouve ça intéressant de se dire, je vais aller chercher le fait d'être à des niveaux où je peux attirer ça,
bien sûr,
et travailler ça pour moi. Rentrons dans le concret, du coup.
Rentrons dans le concret.
J'aime bien, il y a une manière dont tu parles, toi, de développer sa marque personnelle et ce que ça veut dire. Et c'est ce que tu vends à tes clients. En gros, tu dis que ce que tu veux offrir à tes clients, la transformation que tu as envie de leur offrir, c'est les faire passer d'inconnu sur un sujet à une autorité sur ce sujet.
Ouais.
Et ta manière d'en parler, c'est que tu dis que tu les aides à créer leur marque personnelle, la diffuser, cette marque personnelle, et ensuite la monétiser.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais me donner sur ce série de créer, diffuser, monétiser? Si t'avais quelqu'un du podcast là qui t'écrit demain, c'est quoi la première action que tu lui dirais de faire pour partir de zéro et se dire ok, faut que je bosse sur ma marque personnelle?
Il faut se poser une question déjà. C'est quel est mon domaine de prédilection? Quel est mon sujet? Quel est mon domaine? Quelle est ma thématique? Et se dire mon obsession, ça doit être d'être top of mind sur cette thématique.
Okay.
Le concept de top of mind, c'est quand je te dis pâte à tartiner, et tu me dis Nutella.
Ouais.
Je te dis j'ai envie de réparer mon pare-brise. Tu me dis Carglass. Ouais. Notre cerveau, il est, enfin notre mémoire.
Il identifie le premier truc auquel on pense sur un sujet.
Exactement, voilà. Donc t'as toujours un number one dans n'importe quelle catégorie.
Mmh.
Déjà, il faut se dire quelle est ma catégorie, comment je peux faire déjà pour être top of mind sur cette catégorie. Et en fait, très peu de gens se posent cette question. Très peu de gens se disent je suis graphiste, comment je peux être le ou la graphiste.
Quand on pense graphiste, catégorie, on pense à machin. Voilà.
Graphiste dans tel domaine, par exemple.
Okay.
Les gens se disent, ben voilà, je suis substituable et c'est OK. Alors que quand tu développes ta marque personnelle, il faut pas te dire que c'est OK. Parce que justement, tu ne dois pas être substituable. Les gens travaillent avec Thomas Burbidge, ils ne travaillent pas avec un freelance.
Ouais. En fait.
Et c'est un peu le mal du freelance, c'est d'être complètement substituable et en fait d'aller de jouer à une guerre des prix un peu à la baisse, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, déjà, la première chose, c'est de se dire, OK, comment je peux faire pour être top of mind? Déjà, quel est mon domaine de prédilection? Quelle est ma thématique? Et comment je peux faire pour être top of mind?
Si je peux me permettre d'apporter un exercice que je trouve vraiment cool sur la question, c'est effectivement de se dire, comment est-ce que je peux trouver un endroit où je peux être le premier où les gens ne sont pas?
Voilà.
Dans la stratégie d'entreprise, on appelle ça la stratégie de l'océan bleu. Mais, pour un indépendant, ce qui peut être bien, c'est de se dire, je prends un sujet, une thématique, puis je fais une liste des 10 sous-thématiques sur ce truc, j'en choisis une autre, et on continue de creuser jusqu'à ce qu'on trouve un endroit où on se dit, ah tiens, ça, j'ai jamais vu personne le faire.
Ouais.
Et c'est la réflexion que je vois de plus en plus pour certains graphistes qui ont des valeurs éco-responsables, bien poussées, etc. Je pense à Margot qui est venue en conférence avec moi, ou à Johanna qui est dans mon programme, où elles ont trouvé une manière d'en parler. Johanna a dit, je suis graphiste positive.
Ouais.
Et ça, c'est un truc, t'as jamais vu graphiste positive avant. Donc les gens se posent des questions, ils disent, ah tiens, première personne que je vois comme ça.
C'est ça.
Et Margot, elle a dit, je suis échographiste. Et ça aussi, les gens disent, ah tiens,
pas mal.
Échographiste, je connaissais pas. Et c'est juste une autre manière, effectivement, de calibrer ta thématique pour que ça change un peu et que les gens se disent, ah, c'est la première personne que je vois faire ça.
Tu peux créer ta thématique. C'est vrai qu'on se le dit pas aussi, mais qu'est-ce qui nous empêche de créer notre thématique?
Grave.
Donc moi, par exemple, ma thématique à moi, c'est quoi? C'est le personal branding, mais plutôt à destination des indépendants, des entrepreneurs qui ont des business individuels, qui
des
sont seuls.
Des
conférenciers, des auteurs, des experts, des consultants indépendants. Et donc, du coup, bah, c'est une thématique. Quand t'es indépendant et que tu penses à personal branding, mon objectif, mon obsession, c'est que tu penses à Romain Limoy.
Ouais.
Et c'est ça. Quand je pense à mathématiques, est-ce que quand quelqu'un pense à mathématiques, est-ce qu'il pense à moi ? Ok. Donc ça c'est déjà une première chose. Donc ça c'est un peu la partie créer. Créer, c'est grosso modo bien se positionner
sur ta thématique,
sur la thématique, trouver la thématique et bien se positionner. Ouais. La deuxième partie c'est la partie diffusion. Là les diffusions, on va pas passer par quatre chemins. Il faut créer du contenu. Il y a pas 10 000 choses. Je pourrais on peut tourner autour du pot. Il faut créer du contenu. Pourquoi ? Parce que 99% des gens sont des consommateurs de contenu, mais il y a que peut-être 1%, peut-être moins, qui créent du contenu.
Ouais.
Et forcément, créer du contenu, ça te différencie. Ça te fait sortir du lot directement. Donc, créer du contenu, c'est comme ça que tu vas commencer à diffuser, en fait, ta marque.
Ouais.
Et puis après, la monétiser, il y a plein de façons de monétiser une marque personnelle, mais à partir du moment où t'es top of mind sur ta catégorie, que tu crée du contenu, ce qui d'ailleurs participe au fait que tu sois top of mind dans ta catégorie, bah, à partir de ce moment-là, tu as une audience, tu es respecté pour ce que tu racontes, et donc forcément tu peux faire du coaching, très sous-estimé, je suis assez surpris de que assez peu de gens, assez peu d'indépendants aient une offre coaching.
Ouais.
C'est assez recherché le coaching, c'est une carte qu'on peut abattre facilement. Faire de la prestation classique, bah, t'es graphiste, tu fais de la prestation. Et puis, ça peut être des produits digitaux ou des conférences, par exemple. Se voir vraiment... D'abord, se voir comme un média.
Ouais, c'est ça ce que je voulais revenir sur la partie diffusion. Effectivement, c'est un truc que tu dis souvent. C'est on doit se voir, nous, en tant qu'individu, comme un média.
Ouais, se voir comme un média. En fait, un média, quand on réfléchit aux médias, aux plus gros médias qui sont autour de nous, imaginons, je sais pas, les Échos, le journal Les Échos, quotidien Les Échos.
Ouais.
Il y a un sujet de prédilection. Tout média a un sujet de prédilection. Les Échos, c'est le business, l'économie. Il y a une création de contenu régulière. Les Échos, c'est tous les matins.
Des articles, journal,
tous les matins. Voilà. Et bah, derrière, forcément, il y a le fait de créer le rendez-vous. Donc, je sais que tous les matins, j'ai Les Échos.
Ouais.
Quoi qu'il se passe, tous les matins, je peux aller dans mon kiosque à journal. C'est un peu old school comme, comme
exemple. C'est un bon exemple parce que c'est celui que tout le monde connaît, en fait.
Voilà. Tous les matins, tu peux trouver ton... Donc, tu crées le rendez-vous.
Ouais.
Et du coup, tu as forcément une communauté qui te connaît, qui te respecte pour ton sujet de prédilection.
Et tu t'attribues de la valeur. Exactement. Les gens disent, si c'est un article des Échos, c'est que c'est un truc important.
Voilà, tu as cette étiquette de qualité.
Ouais.
Et en fait, quand je dis que tout entrepreneur et surtout tout indépendant devrait devenir à son échelle un média, c'est justement, voilà, j'ai mon sujet de prédilection, je crée du contenu, et je crée le rendez-vous, et j'essaie d'avoir une communauté, de développer une communauté, de développer une audience qui est peut-être le meilleur capital sur lequel quelqu'un pourrait investir.
C'est intéressant, j'aime bien la notion d'investissement. J'avais pas en tête d'en parler, mais on peut en parler. Parce qu'effectivement, c'est un peu la conviction qu'on partage, nous, dans les derniers mois. Et pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu dans mon vlog, avec Romain, on a une habitude, c'est que tous les vendredis, on déjeune ensemble et on se fait ce qu'on appelle du co-coaching, c'est-à-dire que on s'accompagne l'un l'autre à développer notre activité, à avancer sur les différents points. Et un des trucs qu'on a vraiment développé récemment, c'est cette manière de voir le contenu comme un investissement. C'est-à-dire que investir du temps, de l'énergie, acheter du matériel, etc., pour créer du contenu, c'est quelque chose qu'on crée une fois, qui va rester pendant 10, 15, 20, 30, 50 prochaines années. Et on pourra l'exploiter de plein de différentes manières, en fait. C'est une ressource qu'on a créée, qu'on peut exploiter de 25 manières différentes, quoi. Et c'est du coup un vrai investissement. En fait.
Ouais.
Parce que tu mets de la valeur sur la table, et ton objectif, c'est de faire sortir plus de valeur que ce que t'as mis sur la table.
Ça, c'est un peu le système, quoi. Tu mets, t'as une entrée, t'as le contenu, puis t'as une sortie, quoi.
Ouais.
Et après, le système s'auto-nourrit.
S'auto-nourrit.
En fait, c'est ça, le contenu. Et c'est pour ça que devenir un média, c'est peut-être ce qui, peut permettre à n'importe qui de sortir du lot, mais de façon extrêmement rapide, en fait. Créer un podcast, par exemple.
Ouais.
Créer des vidéos, créer des articles régulièrement, des posts régulièrement. Comme par hasard, en l'espace de quelques semaines, réellement, on commence à voir quelques résultats, on commence à avoir des opportunités et à s'ouvrir des portes.
Ouais.
Parce que personne, réellement, on a cette fausse impression, mais réellement, personne ne crée beaucoup de contenu, en fait. Très, très peu de gens créent des contenus. Et comme on est entouré de contenu, on a l'impression que tout le monde en crée.
Ouais.
En fait, c'est une perception, c'est une fausse perception. Et donc, du coup, de faire partie de ces 1%, je crois que le vrai chiffre, c'est sur les 660 millions de personnes qui sont sur LinkedIn, je crois que le vrai chiffre, c'est 1% créer du contenu régulièrement.
Ouais, donc, c'est pas juste une phrase qu'on sort
de la chat. Je crois que c'est vraiment le vrai chiffre. Alors, il faudrait que je te retrouve la source, mais 1%, quoi.
C'est ouf.
Donc là, le choix, il est simple. Est-ce que tu veux faire partie de ces 1%
ou pas?
Sachant tous les avantages. On va pas tourner ton micro, c'est ça. Ouais.
Qu'est-ce que, du coup, tu dirais? Ce qu'on a dit, la première action, c'est vraiment de poser cette thématique et de se dire, ma thématique, c'est celle-ci. Une fois que t'as ça, et que tu sais qu'il faut que tu te comportes comme un média, qu'il faut créer du contenu, c'est quoi l'action qui vient juste derrière pour toi qu'il faut commencer à mettre en place? Est-ce que c'est une question à se poser? Est-ce que c'est un truc concret à faire?
Il faut pas trop intellectualiser la création de contenu.
Ok.
Je me rends compte par rapport aux entrepreneurs que j'accompagne en coaching ou les gens avec qui j'échange, je me rends compte que souvent la question c'est qu'est-ce que je vais bien raconter dans mon contenu. Et donc on se fait une montagne de cette création de contenu et on passe jamais à l'action. Ou alors on passe à l'action une fois et puis on n'ose pas continuer. Donc déjà, ce que je dis tout le temps, c'est il faut être un peu stratège. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'il faut créer du contenu, ben, il faut se prévoir de publier, par exemple, un post par semaine, deux posts par semaine sur LinkedIn. Le mardi, je vais parler de
tel sujet.
Le jeudi, de tel sujet. Il faut noir sur blanc se marquer ça. Si je dis juste bah, « je vais créer du contenu », c'est une montagne qu'on a du mal à gravir.
Donc, c'est voir c'est quoi la plus petite action possible que je peux faire dès maintenant pour aller vers ça.
Pas intellectualiser la chose, stratégiser.
Ouais.
Se dire « ok, faire un plan de contenu, pas être obligé de commencer par un truc incroyable, publier un podcast par jour, par exemple, comme tu le fais, ou une vidéo par jour, comme je le fais.
Ouais.
On peut démarrer assez petit. » Mais il faut, noir sur blanc, se dire, voilà quelle est ma stratégie pour les 2-3 prochains mois. Si tu fais pas ça, si t'as pas cette discipline-là, tu vas te noyer dans un verre d'eau.
Ouais. Et comment, du coup, tu penses, parce que c'est un travail que t'as fait récemment en plus, parce que nos deux sujets à nous, moi, ma thématique, c'est le freelancing et ce que je travaille sur ma marque personnelle à moi, c'est être le freelance de référence qui crée des sujets de pédagogie pour les autres freelances.
Ouais.
Toi, c'est le personal branding pour les indépendants. Merde, je tape sur la table. Le personal branding pour les entrepreneurs indépendants. Comment tu fais pour prendre une thématique aussi large et la réduire pour te dire je vais parler de ce sujet mardi sur mon post LinkedIn? Parce que c'est un vrai sujet, c'est tellement gros que tu peux parler de plein de trucs, quoi.
Je vois où tu veux en venir. Ce qui est important quand on a un sujet un peu large, c'est de diviser ce sujet en sous-thématiques. N'importe quel sujet, quel que soit le sujet que vous avez, quelle que soit la thématique générale que vous ayez, vous allez pouvoir la diviser en une dizaine, 10-12 sous-thématiques. Moi, par exemple, parmi mes sous-thématiques, je vais avoir devenir un média. Je vais avoir bien se positionner, bien se vendre. Je vais avoir monétiser sa marque personnelle.
Ouais.
Donc, ça va être plein de petites sous-parties comme ça. Donc en fait, ce que je fais moi là en ce moment sur YouTube, c'est que je pars sur des semaines un peu thématiques.
Ouais.
Donc je me dis, ben voilà, la semaine prochaine, je vais parler de se positionner et d'un sujet. Et donc j'essaie comme ça, ce qui me permet d'avoir des recherches pour mes vidéos qui sont un peu plus ciblées et d'être plus efficace, et puis d'attaquer sur plusieurs angles en fait
le gros sujet
qui est le positionnement et le personal branding. Enfin,
ouais. Et du coup, dans ce sujet-là, l'invitation pour les personnes qui nous écoutent, c'est de dire j'ai ma thématique, je trouve les 10 qui vont dessous, et petit à petit, je me dis ok, je traite celle-là, en créant du contenu sur ces trucs-là, et petit à petit, à force de tous ces contenus-là, au final, ça crée la perception globale de putain, cette personne-là, elle connaît vraiment bien ce gros sujet.
Elle a toutes les palettes en fait, Mais ce qui ça me ramène à un sujet qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que le fait de diviser en sous-thématiques, vous pouvez pas savoir parfois exactement quelles sont les bonnes sous-thématiques ou est-ce que cette sous-thématique est vraiment pertinente, on peut pas savoir. Donc on fait un premier choix, on se dit voilà les dix que j'ai envie de traiter. Et puis en fait, jour après jour, on se dit ah mais même cette thématique aussi qui est pas mal, ça peut être intéressant de. Et en fait. Souvent, on part du principe qu'il faut qu'on choisisse et le choix, en fait, et qu'on reste bloqué, en fait, dans ce choix-là. Non, on peut très bien choisir, tester une thématique, partir sur 10 semaines, par exemple, et chaque semaine, vous testez une thématique, et sur les 10 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a que 7 qui sont vraiment, vraiment pertinentes. Les 3 autres, elles sont peut-être un peu moins pertinentes, ou elles sont des sous-thématiques de sous-thématiques.
Ouais.
Et en fait, petit à petit, comme ça, et réussir à trouver vraiment des sous-thématiques solides. Et ça se fait sur plusieurs mois.
Ouais.
Mais quand on se met dans ce mindset de test à chaque semaine, c'est là qu'on a des informations, c'est là qu'on a de la data.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as aussi les retours de ah tiens, cette semaine-là j'ai eu tant de réactions alors que la semaine dernière j'avais rien, ou la semaine d'avant j'avais rien, ou la semaine suivante j'avais rien. Et ça valide aussi c'est quoi l'intérêt du marché entre guillemets pour les choses dont tu parles. Ouais. Et tu peux deep dive sur les sujets dont les gens auxquels les gens s'intéressent le plus au final.
C'est ça.
Et je trouve que c'est intéressant ce truc de tu vois Sam Ovens, il en parle pas mal, qui est quelqu'un qu'on suit tous les deux. Et lui, il dit un truc que j'adore, c'est de dire, en gros, ton message et le contenu que tu crées, c'est un peu comme quand t'essayes de calibrer ta radio. Tu sais, ouais. T'as le gros bouton, tu le tournes, et le message, il fait des bruits bizarres, et tout d'un coup, c'est hyper clair.
Ouais.
Et ce que nous, on doit faire en tant que créateur de contenu, et quand on essaie de développer notre marque personnelle, c'est on doit clarifier notre message pour trouver le moment où notre message, il est clair sur la radio.
Ouais.
Et où il est clair pour les gens en face, pour que, en gros, on accorde nos deux radios ensemble. Et quand t'arrives à faire ça, c'est que par le test.
Ouais.
T'es obligé de tester plusieurs messages, plusieurs typologies de contenu, et quand tu trouves la bonne réception entre ce que j'aimais et ce que tu reçois, ouais. qui est la base de la communication, c'est là où t'as trouvé ton modèle et ton équilibrage entre la perception de ta marque personnelle et l'émission de ta marque personnelle et close the gap, ce qu'on disait au tout début de l'épisode, en fait.
C'est énorme cet exemple-là parce que tu te rends compte, en fait, que le but d'un entrepreneur, c'est d'aller à la rencontre de son marché. Et comment tu fais pour trouver des gens en francophonie, si ton marché, c'est un marché francophone, comment tu fais pour aller à la rencontre de ton marché? Comment tu fais pour faire en sorte que les gens que tu veux toucher, que le client idéal que tu veux toucher, qui est au fin fond de l'Ariège ou de je sais pas où, te disent « Ah ouais, je suis touché par ce que tu me racontes. » Le contenu. Le contenu, ça te permet d'aller à la rencontre de ton marché rapidement. Et moi, je suis impressionné parfois d'avoir des messages de mecs du Québec ou d'Afrique qui sont francophones et qui me disent « Ah, j'ai bien aimé ta vidéo sur le positionnement. » Et je me dis « Mais c'est incroyable parce qu'en fait, le message traverse les kilomètres. »
Il passe de personne en personne.
Exactement. Et puis les gens viennent me voir parfois… plein de gens qui vont jamais venir vous voir alors que le message résonne pour eux.
Ouais.
Mais au moins, voilà, le but, un des objectifs, une des obsessions à avoir aussi, c'est ça. Comment je fais pour aller à la rencontre de mon marché? Le contenu, c'est pour moi, après, je pense qu'on partage la même idée, mais pour moi, c'est le chemin le plus court.
Intéressant. Il y a un truc, justement, du coup, sur le contenu. Souvent, on voit la création de contenu, comme tu disais, comme une montagne. On sait pas par où commencer, on sait pas comment faire. Et on voit surtout ça comme un truc ultra chronophage. Créer, c'est pas donné à tout le monde, en tout cas au début.
Ouais.
Et il y a, pareil, un truc, je pense que tous les deux on a compris récemment et qui a vraiment switché dans notre manière de faire et on va beaucoup plus vite depuis qu'on l'a compris. C'est que, quand on documente, c'est-à-dire qu'on partage simplement ce qui se passe dans nos vies, c'est une manière de créer mais qui est optimisé par rapport à notre temps. C'est pas j'arrête ma vie, je me pose, je crée un truc nouveau de toute pièce.
Ouais.
C'est j'accompagne les choses qui se passent déjà dans ma vie et je place du savoir à l'intérieur de ça et là j'apporte de la valeur en ce faisant.
Ouais.
À quel point est-ce que tu dirais que ça peut aider des gens qui n'osent pas créer du contenu parce qu'ils voient ça comme une montagne pour passer à l'action?
Comme je te disais tout à l'heure, on a tendance à intellectualiser la création de contenu. Et donc on se dit il faut absolument que mon sujet il soit ultra pertinent. Donc on se met un peu dans la peau de notre audience cible et on se dit notre audience cible forcément elle va apprécier ce type de sujet, ce niveau de complexité, etc. Alors qu'en fait on est un peu dans l'ère de ce que j'appelle la nouvelle télé-réalité. C'est-à-dire qu'on est attiré en tant qu'être humain par l'ordinaire. On est complètement attiré par l'ordinaire et c'est pour ça que on adore regarder. Je suis sûr que vous le faites ceux qui écoutent le podcast en ce moment. Il y a moins d'une heure de ça, vous étiez sur Instagram en train de regarder des stories, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'on adore les gens qui sont là dans la rue en train de dire « Ah, j'ai mangé une gaufre incroyable ».
Ce qui est drôle, c'est que 90% du temps, on dit « C'est de la merde, c'est chiant », mais on le regarde quand même.
On regarde, ça nous fascine. On est fasciné par l'ordinaire. En ce moment, il y a le mot que tout le monde utilise, c'est l'authenticité. Mais il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'on est fasciné par quelque chose qui se rapproche un peu de nous, de qui on est en tant qu'être humain. Et donc, en fait, le fait de documenter son aventure entrepreneuriale, c'est le meilleur moyen de proposer... Alors, je ne sais pas si on m'entend encore.
Ouais, il y a les sapeurs-pompiers juste en bas.
On est en face d'une caserne, mais tout va bien.
C'est vraiment le cas, en plus, c'est juste en bas.
Ouais, juste en bas, là, je vois le petit drapeau français.
Le fait de documenter son aventure.
Le fait de documenter son aventure entrepreneuriale, c'est peut-être le meilleur moyen de proposer un contenu, voilà, qui est basé autour de l'ordinaire, du normal. Et comme par hasard, ça marche. Je vais vous donner un exemple très précis. Je sors une vidéo par jour sur YouTube. Tous les dimanches, depuis quelques semaines, j'ai sorti ce que j'appelle le café du dimanche, où en fait, je suis un peu plus tranquille, c'est moins monté, c'est moins tuto. Je parle de plein de sujets qui sont, qui n'ont pas forcément rapport avec le personal branding. Il y a un côté un peu vlog, grosso modo. C'est sur ces vidéos-là, j'ai remarqué ça ce matin, c'est sur ces vidéos-là que je prends le plus d'abonnés. Les gens s'abonnent en voyant le café du dimanche, parce que justement, je suis je suis le plus proche de qui je suis réellement, quoi. Ouais, on a l'impression que je suis en face de toi. Donc voilà un peu le...
Je rejoins tellement ce truc parce que, encore une fois, j'ai l'impression d'en parler énormément en ce moment, ce qui est sûrement une bonne chose, mais j'observe de plus en plus à quel point tout ce qu'on fait là, c'est simplement des outils pour créer davantage de liens avec les êtres humains avec qui on veut travailler. Et quand on comprend ça et qu'on se dit, en fait, la personne avec qui je veux bosser, c'est un être humain qui a juste envie d'être en relation avec d'autres êtres humains, faire des trucs cool et d'être heureux au quotidien dans leur projet. Quand on comprend ça et qu'on lâche un peu sur... tu vois, j'ai l'impression que aujourd'hui, sur tous ces sujets entrepreneurs, il y a une espèce d'injonction à être le scientifique de ton sujet, qui le comprend mieux que quiconque, dans presque genre à faire... de la science de l'atome sur nos sujets de rédaction web, enfin tous ces trucs-là et tous les sujets qui sont ceux de vous, les freelances qui écoutent. Alors qu'au final, tu pourrais avoir la meilleure expertise du monde, mais être une personne pas du tout sociable, pas du tout agréable, horrible avec qui vivre et avec qui travailler. Les gens, ils vont pas te prêter attention longtemps. Parce qu'ils préféreront travailler avec quelqu'un avec qui ils s'entendent bien, qu'ils choisissent en tant que personne, même si elle a un niveau de compétence inférieur.
Ce que tu dis souvent, qui est génial, c'est en gros, le nombre de messages, il est fini. C'est-à-dire que il y a, pour telle thématique donnée, il y a peut-être 100, 200, 300 messages forts.
Ouais.
Par contre, le nombre de messagers,
il est infini.
Il est infini.
Et chacun, autant que chaque nombre de personnes.
Moi, je vais peut-être être sensible à ce que tu racontes toi sur le freelancing, et moins à ce que rencontre quelqu'un d'autre sur le freelancing, et inversement. Ouais. Et en fait, chacun va un peu, comme tu parlais de radio et de fréquence, voilà, il y en a qui sont basés sur ta fréquence, ta façon d'expliquer les choses, ta sensibilité, ta petite touch à toi.
Ouais.
Et puis, il y en a qui sont pas... Il y a des gens qui vont pas du tout être sensibles à ça. Et c'est pour ça qu'il faut se dire que la création de contenu, c'est peut-être une des choses les plus subjectives qui existent. C'est pour ça qu'il faut pas l'intellectualiser. Parce que tout ça, c'est très subjectif. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va marcher, déjà. Quand vous créez un contenu, c'est très difficile de, par exemple, de se dire, je vais créer un contenu viral. C'est impossible, même.
Ouais.
On a envie de se dire, ce contenu-là, il va être incroyable, il va être viral. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va résonner. Donc, le but, c'est de se dire, bon, ben, je crée du contenu, je publie, et puis on verra.
Ouais.
Et il faut pas, et c'est très subjectif, tout ça.
Ouais.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que, y a une différence entre ceux qui en créent et ceux qui en créent pas. Mais tout ça est très subjectif, donc ne l'intellectualisez pas et lancez-vous.
Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, parce que là, du coup, on parle beaucoup de messages, donc je vais aller un peu plus loin sur le truc. Tu as sorti récemment une vidéo YouTube où tu disais « c'est l'ingrédient secret de votre personal branding » et tu parlais de ce message que toi, tu martèles à la fin de chaque vidéo et on a un peu touché du doigt aussi, qui est « faites partie de la minorité qui agit ». Comme tu dis là, il y a une différence entre ceux qui créent du contenu et agissent et ceux qui n'en créent pas. Pourquoi est-ce que avoir une phrase comme ça qui incarne tes croyances, parce que c'est le cas pour toi, ça incarne ta croyance que il y a une minorité de personnes qui agissent, créent du contenu, développent leur marque personnelle, c'est ceux qui gagnent. Pourquoi c'est important de trouver une phrase comme ça?
Je pense que c'est important à un moment donné, le plus tôt possible, je pense, dans sa vie d'indépendant, c'est important de marquer noir sur blanc quelle est ce que j'appelle son idéologie. Je dirais une liste peut-être de 10 phrases qui sont en fait des croyances fortes qu'on a sur sa thématique, sur son domaine. Des croyances qui sont parfois un peu contrariennes, ou qui sont parfois un peu clivantes, polémiques, ou en marge de la pensée dominante, etc. Mais en tout cas, c'est des vraies croyances qui nous drivent au quotidien. Je pense que c'est bien de l'avoir, et le pire, c'est d'avoir des croyances mais de pas les diffuser. Il faut les diffuser parce que, comme je viens de dire, il y a quelqu'un qui est peut-être au fin fond du Limousin,
qui a la même que toi,
ou qui va être frappé par ce que tu racontes.
Ouais.
Et donc, on a tous des croyances, mais très peu de gens font l'exercice de vraiment se les noter, vraiment se dire voilà mon idéologie,
ouais.
grosso modo, qui évolue avec le temps. Hein, tu le dis, ouais. on n'est pas des grands scientifiques de notre thématique, mais ça évolue. Mais il faut avoir cette thématique.
Et pour moi, c'est ça aussi, ces convictions quand tu les partages, qui créent du lien avec les gens, mmh. en fait. Parce que effectivement, comme tu le dis très bien, quand quelqu'un se dit putain, je pense la même chose, j'ai jamais entendu personne l'assumer et le dire, ça crée un lien hyper fort avec la personne en face. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je me présente maintenant,
ouais.
j'ai changé ma manière de me présenter depuis la fin de l'année dernière, et je commence toujours mes présentations par « Je m'appelle Thomas Burbidge et je suis convaincu que
ouais. ».
J'explique ce par quoi je suis convaincu, et c'est pour ça que, et j'explique ce que je fais basé sur mes convictions.
Génial.
Et ça crée un vrai lien de proximité avec les gens, parce que ma conviction, elle incarne ce que les gens se démènent à faire tous les jours.
Mm.
Et les freelances qui écoutent ce podcast et qui m'écoutent dans mes différents contenus, ils connaissent cette présentation.
Mmh.
Et en fait, eux, ce qu'ils font tous les jours, c'est incarner mes convictions.
C'est ça.
Ce qui fait que du coup, j'ai un vrai lien avec les freelances, parce mmh. que on est tous en train de, on croit la même chose, on construit la même chose, on avance dans le même sens, parce que on est pareil en fait.
Bah oui.
On est pareil.
Ça résonne.
Ça résonne, exactement. Mmh. Et du coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Et on avait une conversation avec Antoine. Pelletier sur ouais. le podcast, je crois que oui, c'est Antoine Pelletier. Et dans son épisode, on avait beaucoup parlé de sa page à propos sur son site web.
Ok.
Et sur sa page à propos, il a une liste de mes convictions sont celles-ci. Bam, 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 bam. Il balance ses convictions sur sa page à propos.
C'est génial.
Et c'est trop. Et ouais. j'ai trouvé
ses convictions, ses croyances, son idéologie, vous l'appelez ouais. comme vous voulez. Mais c'est vraiment, je pense que ça fait la différence.
Ouais, c'est clair.
Et c'est pour ça que je dis toujours à la fin, faites partie de la minorité qui agit, parce que. Voilà, je suis convaincu que la majorité des gens voilà, réfléchissent, pensent, stratégisent, etc. Mais très peu de personnes passent à l'action. Et du coup, c'est une réelle minorité. Et de faire partie de cette minorité, ça te fait gagner 3 coups d'avance.
Mmh.
Et donc, c'est dur de passer à l'action. Moi, tous les jours, j'ai du mal sur plein de sujets à passer à l'action.
Ouais. Mais c'est ce que notre ami Valentin appelle la résistance.
La résistance, c'est ça. En fait... je pense que tous les jours, il faut s'entraîner un peu à ce que les Américains appellent la resistance training,
ouais.
le fait de s'entraîner à lutter contre notre petite voix qui nous dit
« Non,
il va reste pas. Tranquille.
Tu feras ça demain. »
Ah, tu feras ça demain, reste tranquille, là, t'es dans l'inconfort. Et résister à ça, c'est faire partie de cette minorité
ouais.
qui prend le pari d'agir malgré tout. Malgré tout, malgré l'inconfort que c'est d'agir,
ouais.
parce que c'est derrière l'action qu'il se passe les plus belles choses. En fait. Et c'est ça que j'ai compris hein, récemment, à vrai dire, là, sur une année, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand je fais des vidéos, j'ai envie de balancer ce message-là, quoi. Parce que j'y crois vraiment, c'est une vraie ouais. croyance ancrée.
Et je partage à fond cette conviction.
Mmh.
On va réviser sur les questions rituelles de fin de l'épisode.
Déjà,
ouais, ça passe vite, hein. On est déjà à plus de 50 minutes d'échange. Et encore une fois, ce sujet du personal branding est immense, donc on a à peine égratigné la surface. Mmh. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensemble.
C'est sûr,
dans
c'est
le
sûr.
Mais la première question rituelle de fin d'épisode, c'est dans ton activité d'indépendant, ta vie de freelance jusqu'à maintenant, c'est quoi la plus grosse galère que t'as eue?
Mmh.
Et surtout, comment t'as surmonté cette galère-là?
La plus grosse galère, en fait, c'est que je me disais, j'ai envie d'être indépendant sur un sujet qui est pas vraiment très très développé en France.
Okay.
Donc l'obstacle, le premier obstacle, c'est de me dire comment je peux faire pour avoir des clients sur ce sujet-là, sachant que c'est pas non plus
super développé
quoi. Alors t'es consultant en personal branding. Même moi j'ai du mal
à dire
exactement ce que je fais, mettre un mot très précis, tu vois, en termes de statut. Et donc du coup je me suis dit il faut que j'aie mes premiers clients. Et étant un fan absolu de Gary Vaynerchuk, lui, son mantra, c'est de dire si vous créez pas de contenu, vous avez rien compris. Grosso modo, c'est ça. Si je résume ça en une phrase, c'est ça. Et je me suis dit bon, Gary, qui a une énorme marque personnelle, il crée du contenu.
Ouais.
Donc, je pense que pour avoir
des clients,
il faut que je crée du contenu. Mais à l'époque, il y a un peu plus d'un an de ça, je n'avais jamais créé, mais un seul contenu, quoi. Ni écrit, ni vidéo, ni audio. J'avais jamais créé de contenu de ma vie. Et je me suis dit, OK, je me lance dans la création de contenu. Et ça a été un obstacle énorme. Parce que comme par hasard, j'avais les mêmes excuses que tout le monde se raconte quand on crée du contenu,
bien sûr.
Première excuse, c'est, j'ai pas le temps. Je dois bosser avec mes clients, je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps de créer du contenu. La deuxième excuse, c'est, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Tout a déjà été dit.
Oui.
Et les gens sont beaucoup plus pertinents que moi. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute en plus dans ma thématique? Et la troisième excuse, c'est, je suis pas légitime. Je suis pas légitime, je démarre.
Qui suis-je?
Qui suis-je pour parler de tel truc? Qui suis-je pour donner des conseils?
Et donc, c'est pour ça que je trouve que, pardon, mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant cette position de se dire, je documente plutôt que crée. Parce qu'au final, tu dis pas, je suis la personne qui sait tout sur ce sujet. Tu assumes clairement, genre, je suis sur le chemin, je suis en train d'apprendre, voici ce que j'apprends sur le chemin.
C'est ça.
J'espère que ça peut vous aider et que je peux vous apporter de la valeur comme ça. Et ça crédibilise énormément. Ça dédramatise à quel point, c'est pas non plus insurmontable.
Non. C'est pour ça que, avant, sur LinkedIn, j'avais mis, expert, un truc comme ça. Expert en personne. Et en fait, je me suis dit, ça résonne pas chez moi. Parce qu'en fait, je suis un découvreur. J'aime bien l'idée d'aller gratter, d'aller lire un bouquin, d'aller trouver un bon exemple, etc. Et en fait, je suis plus un découvreur, ou plus un prof, tu sais, qui apprend en même temps,
ou explorateur.
Ou une sorte de prof un peu chercheur, tu sais, les profs chercheurs, là, il y en a pas mal, on est comme des commerces. Ils cherchent et ils enseignent. Je pense que je me vois plus comme un prof chercheur que comme un expert ou un spécialiste.
Ouais. Et je trouve que l'expert, c'est très figé aussi. C'est genre,
un peu figé.
Je suis arrivé à ce stade de connaissance, maintenant je donne.
Ouais.
Et t'as pas le truc de continuellement apprendre, tu vois, cette posture de sachant constant qu'on a tous les deux et qu'on se pousse toujours à apprendre. On consomme tous les deux énormément de contenu et tous les vendredis quand on se voit.
C'est jamais assez.
J'ai lu ça, j'ai appris ça, j'ai vu ça,
c'est
machin, et on est tout le temps sur le chemin.
Ouais.
Effectivement, si on se disait qu'on est des experts, c'est presque comme si on avait arrêté d'apprendre.
C'est ça.
Et qu'on était que dans la diffusion.
Ouais.
Intéressant, et je pense que du coup effectivement ça peut aider des gens à aller au-delà de ces excuses et se dire bon ben go maintenant.
Voilà, mon plus grand obstacle c'était ça, c'était le contenu et les excuses. Et en fait, comment j'ai dépassé ça? C'est ça que tu me demandes, comment j'ai dépassé l'obstacle. Comment j'ai dépassé un jour je me fais contacter par une jeune fille qui s'appelle Anaïs Jousset,
qui est dans le
programme qui se reconnaîtra quand elle écoutera le podcast.
Génial, Anaïs,
qui est super, qui elle travaille dans tout ce qui est milieu du storytelling. C'est quelqu'un de vraiment super. Et elle me contacte, elle me dit, on va boire un café, j'ai vu que t'étais un peu sur le personal branding, tout ça, storytelling et tout, ça m'intéresse. On va boire un café. Et elle me dit, moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer des vidéos sur LinkedIn. Et je lui dis, mais c'est marrant, mais moi aussi. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, bah, ce qui serait bien, ce serait qu'on se voit régulièrement.
Et qu'on crée des vidéos ensemble.
Et qu'on crée des vidéos ensemble. Donc en fait, toutes les semaines, le vendredi, pendant 3-4 mois, on s'est vu, il faisait beau, c'était l'été, quoi, le printemps. Et on s'est mis dans les parcs et on a tourné des vidéos comme ça, chacun pour nos LinkedIn. Et on
a commencé
exactement, on se donnait des feedbacks sur le message, etc. Et on se faisait des petits formats, des tout petits formats de 2 minutes. Et en fait, c'est ce que on pourrait appeler le fait d'avoir un partenaire ou une partenaire de responsabilité.
Ouais.
Quelqu'un qu'on n'a pas envie de lâcher, un peu comme quand vous allez dans le, je sais pas, vous allez à la salle de sport par exemple, vous avez un coach sportif dédié.
Ouais.
C'est mardi soir, vous rentrez du boulot, vous rentrez d'une journée dure, vous avez pas envie d'aller à la salle de sport.
Mais votre coach, votre
coach, il vous attend, il est chaud, lui. Lui, il est chaud pour vous faire faire vos pompes et vos push-ups. Et donc, du coup, vous allez pas avoir envie de le laisser tomber.
Ouais.
Et c'est pareil pour un partenaire de responsabilité. Donc, si tu nous écoutes en ce moment et que tu as envie de créer du contenu,
trouve quelqu'un d'autre qui veut aussi et engagez-vous ensemble.
Et engagez-vous ensemble, exactement. Tu l'as mieux résumé que moi.
Bah, parce que c'est un sujet que je connais beaucoup et dans le programme, on met en place ça, tous les membres qui rentrent. On leur dit, vous avez un parrain ou une marraine qui est là pour vous pousser. Vous avez aussi, à votre tour, un filleul que vous devez pousser, avancer avec et vous entraider.
Non, je savais pas ça.
Et on leur dit aussi, pour tous les sujets, dès que vous avez un truc, faites une demande dans la communauté, prenez un partenaire de responsabilité qui a les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et avancez ensemble en même temps. Ce qui fait que là, il y a des gens qui sont dans le programme, qui tous les lundis s'appellent, font le point sur leurs objectifs de la semaine. Et à la fin de la semaine ou la semaine suivante, ils font le point sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait et comment ils avancent. Et ils font ça à 3. C'est un groupe de 3, mais il y en a d'autres qui le font à 2.
Ouais.
Toutes les semaines, ils le font depuis des mois. Et ça fait toute la différence, comme pour nous, en fait.
Je savais pas ça.
Nous, on fait aussi. C'est un truc qu'on instaure dès le début, parce que ça fait partie de la pédagogie.
C'est trop bien.
Et ça fait, c'est une énorme, enfin, c'est trop puissant, quoi. La prochaine question, Romain, c'est si t'étais face à toi qui sort de chez Crème de la Crème, qui devient indépendant, c'est ton premier jour en freelance. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même après ce que tu as appris sur ces dernières années?
Je me dirais, rappelle-toi, la régularité bat le talent. Je pense que je me dirais ça. Et j'expliquerai quand même après derrière.
Je t'invite à
j'expliquerai. Et je dirais qu'en gros, ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir du talent. Ce qui est important, c'est pas une question de temps ou de talent. Ce qui est important, c'est d'avoir du feedback. Et d'avoir un maximum de feedback. Et quand t'es régulier, quand tu crées du contenu de manière régulière, quand tu te formes de manière régulière, quand tu rencontres des gens de manière régulière, quand dans ton activité, t'as une vraie régularité, à ce moment-là, tu as du feedback de manière régulière. Tu as des retours du marché, des retours de la data, de la donnée.
Et donc t'apprends.
Et donc t'apprends. Et en fait, la différence entre quelqu'un qui dit, ça fait 4 ans que je fais du marketing, et imaginons, tu prends 2 personnes. Les 2 personnes, ça fait 4 ans qu'ils font du marketing digital. Ouais. Mais il y en a un qui crée du contenu
tous les jours.
Tous les jours. Alors que l'autre a créé une grosse vidéo cette année. Mais une grosse vidéo par an, grosso modo. Bah, celui qui a créé du contenu tous les jours, il a 365 fois plus de feedback que la personne qui a créé du contenu une fois par an.
C'est hyper intéressant parce que je trouve que la vraie question de tout ça, on parlait de légitimité tout à l'heure, la vraie question de toutes ces choses-là et de pourquoi la marque personnelle c'est important, etc., c'est de créer un lien de confiance et une valeur perçue de ton travail qui augmente, donc tu peux monter ton TGM, tu peux mieux te développer, mieux te positionner, etc. Et pour moi, avant, cette légitimité-là, elle était accordée par notre diplôme ou nos années d'expérience.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on accordait de la valeur à quelqu'un qui travaille sur un sujet depuis 20 ans ou qui a fait 20 ans sur tel poste dans telle boîte ou qui a un diplôme de telle école. Et aujourd'hui, je trouve que ça s'inverse parce que 20 ans d'expérience, ou on va prendre 4 ans, c'est plus court, mais 4 ans d'expérience sur un sujet, si t'as fait que travailler en entreprise, dans un job salarié ou avec des clients sur ce sujet pendant 4 ans, t'as une valeur perçue moins grande et sûrement une moins grande expertise que si pendant 4 ans, t'as créé du contenu, parce que créer du contenu, ça t'oblige à aller te former, à réfléchir, à poser tes pensées sur une page, à les hiérarchiser, à les organiser, à avoir les feedbacks des gens, comme tu dis, pour améliorer ta pensée. Et du coup, tu progresses beaucoup plus vite que quelqu'un qui fait juste son taf.
Parce que t'as une sorte de boucle de feedback qui est énorme par rapport à quelqu'un qui maîtrise son taf pendant 4 ans.
Et la seule feedback qu'ils ont, c'est leur boss.
C'est ça. Ce qui est bien dans cette, voilà, ce qui est la seule chose que tu peux avoir.
Ou leurs clients, s'ils sont
ou leurs clients. Mais voilà, je pense que je lui dirais ça. Je lui dirais, rappelle-toi, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de temps non plus. Te dis pas, il faut que je passe 15 ans à travailler la barre personnelle pour, non, c'est une question de nombre de feedback. Donc en fait, chaque action au quotidien
peut générer des feedbacks.
Peut générer des feedbacks. Il faut être à la recherche de ces feedbacks. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. C'est le nombre de feedbacks que t'as.
Ouais.
Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a énormément de feedback.
Comme tous les sujets qu'on voit en startup, ça te permet de trouver le product market fit, le message fit dont on parlait avec la radio, tous ces trucs-là. Parce que t'as des feedbacks de ton audience et tu te dis, OK, bah là, j'ai réussi à bien calibrer. C'est ça qu'ils cherchent. Mmh. C'est ça qui marche, que j'arrive à vendre.
Ouais.
Et je continue d'appuyer sur ce bouton-là, quoi.
Et pour toi-même aussi, tu te connais mieux toi-même.
Ouais, c'est clair.
T'as tellement eu de situations différentes. Des situations de stress, des situations que tu te connais tellement que bah, maintenant tu sais que dans telle situation, tu réagis comme ça. Donc t'es efficace.
Ouais.
Et tu fais ça, tu multiplies ça par un feedback, 10 feedbacks par jour.
Ouais.
C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est pas une question de temps, c'est une question vraiment de feedback, quoi. Et de régularité.
C'est bon, je pense qu'on l'entend pas.
Petit son.
On a un petit bip 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 en arrière-plan, mais je crois qu'on l'entend pas. les petites courbes sur le logiciel, ça a l'air bien.
Ça a l'air bon.
La dernière question, et c'est sûrement la plus importante ou celle à laquelle je tiens le plus, parce que, comme tu le sais, je suis convaincu aussi du pouvoir des questions qu'on se pose et de comment ça peut nous faire changer de regard sur le monde, sur notre activité, sur comment on avance. Et du coup, la dernière question, c'est si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils aient un vrai travail de fond, de réflexion sur eux-mêmes et leur activité, c'est quoi cette question?
J'ai le droit d'en avoir 2.
Ok, t'as le droit. Mais c'est seulement parce que c'est toi.
Bon, parce qu'en fait, il y en a une qui est un peu plus abstraite que l'autre.
Ok.
Je vais commencer par l'abstraite. Je sais plus où j'avais lu ça, je crois dans un bouquin, je suis incapable de dire le nom du bouquin. Mais en fait, on a tous quelque chose qui nous rend unique. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui me rend unique et comment je peux l'utiliser au service des autres. Et quand on met le doigt sur ce qui nous rend unique et qu'on arrive à peu près avoir une stratégie pour utiliser ça au service des autres, tout s'éclaircit en fait. Et quand j'ai fait ce travail-là, moi ce que j'adore faire par exemple, c'est consommer du contenu, plutôt business. Je suis capable d'aller deep dans un contenu et de consommer.
Pour vous dire, écoute, toutes les semaines, Romain me sort le nom d'un nouveau créateur de contenu que je ne connais pas et il me dit, j'ai regardé 30 heures de ses vidéos et il me sort tous ses apprentissages et c'est absolument incroyable. Je sais pas où il trouve le temps de faire ça, ni l'énergie, ni l'envie, mais c'est clairement quelque chose qui le caractérise et toutes les semaines, il me sort 2-3 nouvelles personnes que je connais pas.
De faire ça, pendant longtemps, je me suis dit, oh, mais c'est une perte de temps, c'est un hobby plus qu'autre chose. Mais maintenant que je crée du contenu
grâce à ça,
que je crée des formations, que serait du coaching grâce en fait à
tout ce que t'apprends,
tout ça, tout ce qui me nourrit, je me dis mais voilà ce que je mets à disposition des autres. Je mets à disposition tout ça combiné dans le cadre du personal branding
et de ton message
et de mon message à moi personnel, mes croyances à moi. Mais j'essaie d'aider à mon noble échelle les gens grâce à ce qui fait de moi que je suis un peu à part ou un peu unique, enfin mon unicité quelque part.
La question c'est
qu'est-ce qui te rend unique. Trouve ce qui te rend unique. Et qu'est-ce qui te rend unique et comment tu peux l'utiliser au service des autres?
Ok. Et la question plus terre à terre?
La question plus terre à terre, c'est dans quelle thématique je peux être top of mind? Déjà, de se dire ça et de trouver une thématique ou parfois même d'inventer sa thématique.
Ouais, c'est clair.
Ça aussi, ça va éclaircir un petit peu les choses. Vous allez même pouvoir créer plus facilement du contenu. Vous allez plus facilement pouvoir devenir un média quand vous avez une thématique. Donc ça, c'est... Elle est beaucoup plus terre à terre celle-là, mais les deux se combinent évidemment.
Ouais. Et du coup, les gens qui les écoutent, je les invite à mettre pause, sortir un carnet et commencer à écrire pour trouver leur thématique, parce que c'est clair que quand tu définis cette direction, ça aide aussi à aller construire tout le reste, parce que tu dis c'est ça dont j'ai envie de parler.
Il y a un exercice très simple pour quand on ne sait pas quelle thématique choisir. Vous prenez les 4 thématiques qui sont celles qui vous viennent dans la tête en premier. Et au-dessous de chaque thématique, vous écrivez 10 sujets de contenu. Et vous allez vite voir qu'il y a certaines thématiques où vous allez avoir du mal à trouver 10 sujets, et certaines thématiques où ça va être très très simple. Et donc ça peut vous orienter un petit peu vers la thématique à choisir.
Ouais, parce que celle-là où c'est plus simple, c'est potentiellement que ça t'intéresse plus, quoi.
C'est ça.
Okay.
Et si la thématique est large, c'est pas grave. Ouais. Vous allez pouvoir avoir le temps de réduire un petit peu la voilure petit à petit.
Okay.
Mais au moins, c'est important de savoir pour quelle thématique je veux être top of mind. Mais vraiment top of mind.
Ouais. Merci pour tout ça, Romain.
Merci à toi.
J'ai envie d'aller encore plus loin dans le futur, mais pour l'instant, on va se restreindre. Pour que les gens puissent en savoir plus sur toi, te suivre, échanger avec toi, voir ce que tu crées, où est-ce que je les envoie?
Je pense que le plus simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube. Je crée une vidéo par jour, tous les jours à 7h. Je publie une vidéo sur le personal branding. Et du coup, c'est Romain Limois, donc L-I-2-M-O-I-S.
Je mettrai un lien de toute façon.
J'imagine que tu mettras un lien. Mais voilà, Romain Limois sur YouTube. En fait. Et là, voilà, je publie une vidéo par jour. Donc, je pense que c'est le plus simple, voilà, de prendre un peu au hasard quelques vidéos qui vous intéressent et puis regarder un petit peu ma façon de voir les choses. Essayer de, voilà. Et si, là où je suis aussi très actif, c'est sur LinkedIn. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi, vous écoutez cet épisode et vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de me poser des questions ou quoi que ce soit, m'envoyez un petit DM sur LinkedIn. Je réponds vite.
Merci Romain pour tout ce riche contenu sur
Merci.
La marque personnelle et
Merci à toi.
Hâte d'avancer ensemble.
Merci à toi de m'avoir invité parce que je te dis, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi et de
moi aussi, ça me fait plaisir et à bientôt sur le podcast.
Ciao.
Un grand merci pour ton écoute. Je ne vais pas m'étendre suite à cet épisode qui fait partie des plus longs du podcast, il me semble. Mais avant de partir, je te laisse simplement avec une petite demande. Si tu aimes ce podcast et les échanges que je te partage ici chaque semaine, ça me serait d'un immense soutien si tu pouvais mettre une note et un commentaire sur ton application de podcast préférée, parce que c'est vraiment ce qui m'aide le plus à permettre à de nouvelles personnes de découvrir ce projet. Merci par avance pour ça. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.